Jusqu'à la fin du mois d'août, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées issues de nos archives.
La marche du monde.
Do we have any other weapon but our unity?
Disposons-nous d'une autre arme que notre unité?
Is not our unity essential to guide our own freedom as well as to win freedom? For our oppressed brothers, the freedom fighters.
Cette unité n'est-elle pas essentielle pour sauvegarder notre propre liberté et pour conquérir la liberté de nos frères opprimés, les combattants de la libération ?
L'Afrique doit s'unir, c'est le mot d'ordre lancé par Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme, lors de la création de l'Organisation de l'Union africaine au début des années 60. Un slogan largement diffusé par la star du reggae Bob Marley. Nkrumah, figure tutélaire de la pensée panafricaine, a inspiré nombre d'intellectuels et de figures politiques du continent, mais peu d'entre eux ont eu l'opportunité de porter ces idéaux au pouvoir. Si Julius Nyerere s'en est fait le relais, en Tanzanie, l'héritier visionnaire de Kwame Nkrumah s'incarne dans la présidence de Thomas Sankara, le plus populaire d'entre eux. Lorsqu'il prend le pouvoir dans les années 80 en Haute-Volta, le premier geste de Thomas Sankara est de rebaptiser l'ancienne colonie française en Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Il se met alors dans les pas de Kwame Nkrumah, qui a lui-même redonné un nom africain à son pays en 1957. La Gold Coast, la colonie des Britanniques, devenait ainsi le Ghana, en référence à l'Empire du Ghana, situé dans les régions sahéliennes du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Africa, unite, 'cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of Africans, yeah. As it's been said already, let it be done, yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children of the Maya man. Africa, Africa Unite, c'est le titre de votre livre, Hamzat Boukhari Yabara. Bonjour.
Bonjour.
Un livre paru aux éditions La Découverte, où l'historien et docteur de l'école des hautes études en sciences sociales que vous êtes propose de retracer l'histoire du mouvement panafricain depuis ses origines, et vous remontez d'ailleurs jusqu'à la révolution haïtienne de 1791.
Effectivement, je remonte jusqu'à cette révolution à la fin du XVIIIe siècle, qui me semble le point de départ de la révolte des Africains, donc de Saint-Domingue, qui se libèrent de l'esclavage, parce que le panafricanisme est né dans cette idée de libération. C'est un mouvement de libération très concret par rapport à l'esclavage, par rapport à un système d'oppression. Donc Haïti va être la première étape de cette libération. Il y en aura d'autres, notamment depuis les États-Unis, qui se dirigeront vers le Liberia, dans le cadre d'un mouvement très peu connu, le mouvement de retour des Afro-Américains vers l'Afrique.
Back to Africa.
Le Back to Africa, exactement, qui sera davantage popularisé dans la première moitié du XXe siècle par quelqu'un comme Marcus Garvey. Et à cette même époque, au début du XXe siècle, on a une tradition de congrès panafricains qui ont lieu dans la diaspora, qui sont menés par des intellectuels comme William Du Bois. Et lors de l'un de ces congrès-là, le cinquième qui a lieu à Manchester, on va voir des figures africaines émerger comme Kwame Nkrumah, justement, dont vous avez parlé. Et ce sont ces Africains qui vont ramener le panafricanisme sur le continent dans le cadre des luttes anticoloniales, et c'est Kwame Nkrumah qui sera effectivement la figure pionnière de ce panafricanisme continental dans la seconde moitié du XXe siècle.
Le panafricanisme, c'est d'abord la conscience noire, mais c'est très vite une action politique. Et après avoir prêché le retour en Afrique des Africains, les panafricains réclament le retour de l'Afrique aux Africains. C'est le temps des indépendances.
Accra. Les représentants de 72 pays viennent d'assister à la naissance de Ghana,
La duchesse de Kent représentait ici la reine d'Angleterre et le Commonwealth. Monsieur Mitran représentait la France. Le haut commissaire Gaston Cousin, la OAS. Monsieur Ralph Bunche, les Nations Unies. Monsieur Nixon, les États-Unis. Monsieur Bourguiba, la Tunisie. Monsieur Balafré, le Maroc. Nous venons de vivre sous un soleil accablant 3 jours de fête étourdissante. Le grand moment de ces journées, c'était certes hier soir à minuit, quand le cap solennel a été franchi. Écoutez.
Il est minuit à Accra, en Gold Coast, qui devient Ghana, pays indépendant. Sur la grande place d'Accra, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont massées, tandis que M. Nkrumah, Premier ministre, monte à la tribune. Le président Nkrumah vient de s'adresser à la foule. Il est entouré de ses ministres. Ils ont tous revêtu leur tenue de prisonnier.
Les cérémonies de changement d'étendard, on a baissé le Union Jack et puis on a enlevé celui du Ghana qui nous avons donné hip 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 hooray, hip 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 hooray. Le sentiment de fierté, finalement, nous aussi nous sommes indépendants. Oui. Parce qu'à la veille, Kwame Nkrumah a donné le discours d'indépendance. À la radio, naturellement, à la radio, hein, parce qu'il n'y avait pas de télévision. Presque tout le monde, on avait mémorisé la partie qui nous a donné beaucoup d'enthousiasme. The independence of Ghana is meaningless unless it's linked with the total liberation of Africa.
And as I pointed out at our party conference at Sorbonne, I made it quite clear that from now on today, we must change our attitudes, our minds. We must realize that from now on, we are no more a colonial, but a free and independent people. Ghana is free forever. And here, I will ask the band to play the Ghana National Anthem.
L'indépendance du Ghana, moment fondateur de l'histoire du panafricanisme, Hamzat Boukari Diabara, puisque pour la première fois, les idées panafricaines sont portées au plus haut niveau, celui du premier pays indépendant du continent, avec un président, Kwame Nkrumah, bardé de diplômes d'un très haut niveau intellectuel. Il rêve des États-Unis d'Afrique, pour lesquels il milite depuis ses années de jeunesse. Mais quel est donc son projet ?
En fait, son projet, c'est de s'inspirer un peu de ce qui a été fait, notamment aux États-Unis. Nkrumah a voyagé. Il a été formé pendant de 1935 à 45 aux États-Unis. Il a vu ce modèle fédéral. Et il a voulu, en fait, en revenant au Ghana, lier ce modèle fédéral américain avec aussi des systèmes plus anciens qui existaient déjà en Afrique avant la colonisation. Il existait des structures fédérales. Et très rapidement, il va se rendre compte que l'indépendance du Ghana à l'échelle nationale ne signifie rien si le reste de l'Afrique n'est pas libéré et uni dans un même cadre politique. Donc, il va proposer un projet très simple qui s'appelle les États-Unis d'Afrique. Donc, c'est l'idée d'un gouvernement continental qui prendrait en charge les questions de souveraineté que sont la monnaie, la diplomatie, l'armée, également les transports et les communications, afin de donner à l'Afrique une place beaucoup plus importante dans un contexte géopolitique qui est celui de la guerre froide, qui est celui de l'affrontement Est-Ouest, et qui est également celui des guerres de libération, notamment en Algérie, dans les colonies portugaises, et également en Afrique du Sud, contre le régime de l'apartheid.
This day will never be forgotten, the 6th of March 1957, when the Gold Coast successfully get your independence officially.
Ghana.
Ghana is the name.
Ghana. we wish to proclaim. We will be jolly, merry and gay. The 6th of March, Independence Day.
Alors tous les grands leaders nationalistes des indépendances n'épousent pas forcément les projets de Nkrumah. Oufouette Boigny, par exemple, qui est alors député de la Côte d'Ivoire et ancien ministre du gouvernement français, réaffirme en 58 tout son attachement à l'Union française.
J'ai déclaré tout à l'heure qu'il n'y avait plus de problème politique entre la métropole et notre Côte d'Ivoire. Et j'ai précisé que le sort de la communauté ne se jouerait pas en Afrique, mais bien à Paris. Pendant longtemps encore, nous devrions attendre de la France son concours matériel, technique, financier, économique, pour féconder nos immenses possibilités. Nous ne voudrions pas être en permanence à sa charge. Nous voudrions pouvoir, et le plus tôt sera le mieux, apporter notre contribution au patrimoine commun de la communauté.
Deux grandes visions s'affrontent pour l'avenir de l'Afrique, celle d'Oufouette Boigny et celle de Kwame Nkrumah.
Do we have any other weapon but our unity?
Disposons-nous d'une autre arme que notre unité?
Is not our unity essential to guard our own freedom as well as to win freedom for our oppressed brothers, the freedom fighters?
Cette unité n'est-elle pas essentielle pour sauvegarder notre propre liberté et pour conquérir la liberté de nos frères opprimés, les combattants de la libération?
Is it not unity alone that can weld us into an effective force capable of creating our own progress?
N'est-ce pas l'unité seule qui pourra nous forger pour nous intégrer en une force effective capable de créer sa propre progression et d'apporter une contribution précieuse à la paix mondiale?
Ce n'est pas avec l'ancien colonisateur que Kwame Nkrumah veut s'associer, mais avec les autres nations africaines. Et c'est pourquoi il organise la conférence d'Accra en 1958, une conférence boycottée par Oufouette Boigny.
Notre Côte d'Ivoire peut être considérée comme une maison de verre. Nous n'avons rien à cacher. La Côte d'Ivoire officielle n'enverra aucun observateur à la conférence d'Accra. Je vous ai dit que nous étions des patients cultivateurs. Nous sommes aussi, en tant que cultivateurs, des réalistes. Les gens se réuniraient à Accra pour faire l'apologie de l'indépendance nominale. Ils parleront de réalité, même si ces réalités sont tristes, si elles cachent des misères. Mais nous n'aurions pas à parler de réalité. Notre expérience n'a pas de précédent. Notre expérience doit être réalisée. C'est dans l'action qu'on mesurera la valeur des deux expériences en présence. Nous attendrons 5-10 ans. Pour démontrer que c'est nous qui avons raison, parce que c'est nous qui allons dans le sens de l'histoire.
Implacable, Oufouette Boigny boycotte la conférence d'Accra, tandis que l'Égypte, l'Éthiopie, le Libéria, la Libye, le Soudan, le Maroc et la Tunisie s'y pressent. Que se passe-t-il durant cette conférence, Hamzat Boukhari Yabara?
En fait, lors de cette conférence, Kwame Nkrumah propose déjà de mettre en place une première charte qui réunirait les États indépendants, qui leur permettrait de mettre en place des structures communes, donc du point de vue de la monnaie, de la défense, également de la diplomatie, pour ensuite soutenir les autres États qui cherchent à obtenir leur indépendance et leur apporter un soutien matériel concret. Donc un peu plus tard, il y aura par exemple le cas de la Guinée, de Sékou Touré, qui va dire non au général de Gaulle et qui va être ensuite rattaché au Ghana dans le cadre de l'Union Ghana-Guinée, donc à la fin de l'année 58. ce qui va d'ailleurs précipiter la fin de la communauté française. Et en fait, à chaque fois, Nkrumah va soutenir les partisans de l'indépendance, d'une indépendance radicale, d'une indépendance sous le signe de la rupture avec l'ancien système colonial français, que ce soit donc en Guinée, mais également au Cameroun, également au Congo. Le soutien qu'il va apporter à Patrice Lumumba sera extrêmement important. Et c'est cela qui va, je pense, lui attirer les foudres de la part de Paris, mais également de Washington à cette époque-là.
Ghana is the name, Ghana, we wish to proclaim. We will be jolly, merry and gay, the 6th of March, Independence Day.
Hamzat Boukhari Yabara, j'aimerais que l'on revienne sur ce précédent finalement que crée Accra. Qu'est-ce qui unit finalement ceux qui sont du panarabisme en quelque sorte et ceux qui sont du panafricanisme à ce moment-là?
En fait, à ce moment-là, il y a la question des luttes anticoloniales, notamment la question de l'Algérie. Il y avait un soutien de la part des autres pays nord-africains au Front de Libération Nationale. C'est également une question qui a permis de fédérer, je pense, des pays comme l'Éthiopie. L'Éthiopie a toujours été indépendant, mais était toujours resté relativement en dehors de ces questions continentales. Donc là, l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié s'est retrouvée mêlée, a bien compris que son destin était continental. Et d'autre part, il y avait cet affrontement entre Kwame Nkrumah et Gamal Abdel Nasser qu'il fallait résoudre. Donc autour de cette synthèse, il y avait des enjeux qui étaient éminemment importants, comme celle de l'État d'Israël, quelle politique par rapport à cet État-là, sachant que le Ghana de Nkrumah était favorable aux relations avec cet État et que l'Égypte n'y était pas favorable. Et puis il y avait également les questions d'orientation entre les systèmes capitalistes et socialistes, en sachant que le Ghana, après son indépendance, avait plutôt une vision plus libérale, tandis que l'Égypte était déjà beaucoup plus proche du bloc de l'Est et de l'économie socialiste. Donc ce sont des enjeux, des ajustements qui ont été discutés lors de cette conférence entre les gouvernements. Et lorsqu'en décembre 58, il y aura une seconde conférence qui, elle, concernera principalement les peuples africains, qui aura lieu également à Accra, là, on aura les leaders syndicaux, les chefs des mouvements de libération de toute l'Afrique non indépendante qui seront réunis à Accra et qui, là, vont élaborer une stratégie dans le cadre de la lutte contre le colonialisme et contre l'impérialisme.
Mais néanmoins, est-ce que cet anticolonialisme est à ce moment-là le seul point commun entre Nasser, donc l'Égyptien, hein, leader du panarabisme, et Nkrumah, le Ghanéen, leader du panafricanisme?
Non, il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a l'idée également d'utiliser du mieux possible les ressources dont dispose le continent. Donc, il est nécessaire de mettre en place une politique continentale au niveau notamment énergétique. Il y a des projets hydrauliques, même nucléaires, qui sont discutés dans cette époque-là. Il y a également la question de peser d'un point de vue diplomatique sur les affaires mondiales. On est dans la période où le tiers-monde prend de plus en plus d'importance, où les questions liées au non-alignement sont également cruciales, où la conférence de Bandung a déjà montré cette proximité entre les mondes, entre guillemets, africains, asiatiques, arabes. Donc ce sont tous ces enjeux-là qui sont discutés. On a le sentiment à cette époque que c'est de l'Afrique que pourra venir cette révolution anti-impérialiste.
Africa Unite, c'est le cri de ralliement de Kwame Nkrumah et le titre du livre de notre invité Hamzat Boukhari Yabara. L'historien propose une histoire du panafricanisme aux éditions La Découverte et dans La Marche du Monde, juste après les infos sur RFI. Oh.
marche du monde.
Do we have any other weapon but our unity?
Africa, unite. Cause we are moving right out of Babylon.
African unity now.
And we are going to our father's land. How good and how pleasant it will be.
African unity now. Any other weapon?
As it's been said already, let it be done.
But our unity?
We are the children of the Rastaman.
African unity now.
We are the children of the Ayaman. So Africa unites, cause we are moving.
L'unité de l'Afrique, c'est la revendication du président ghanéen Kwame Nkrumah, premier président de l'Afrique noire indépendante, père du panafricanisme chanté par Bob Marley et par Rokia Traoré. Kwame Nkrumah à l'épreuve du pouvoir au Ghana, tout comme Thomas Sankara, son héritier visionnaire, 20 ans plus tard au Burkina. Nkrumah, l'intellectuel, et Sankara, le militaire. Deux présidents panafricains, militants de la libération, de l'émancipation et de l'unité des Noirs à travers le monde.
Je crois que la plus grande des victoires, c'est la transformation des esprits. Le Burkinabé a conscience en lui-même maintenant. Et il sent qu'il peut transformer sa réalité, son milieu. Bien sûr, ce n'est pas automatique, mais enfin, c'est cela qui me paraît être le plus important. Tout le reste, vous pouvez oublier les écoles, les dispensaires, les barrages, les routes, les logements, tout ça vous pouvez l'oublier. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Burkinabés ont pris conscience maintenant, ils ont confiance en eux-mêmes. C'est le premier, la première et la plus importante des victoires.
Africa, unite.
Marche du monde, Valérie Nivelon.
Et nous retrouvons notre invité, Hamzat Boukhari Yabara. Merci de nous faire partager le fruit de vos recherches, Hamzat Boukhari Yabara, puisque vous êtes docteur en histoire à l'HESS, l'école des études en sciences sociales, et que vous proposez une histoire du panafricanisme aux éditions de La Découverte, sous le titre « Africa Unite ». Vous le traduisez comment, vous ?
Afrique, unis-toi.
On rencontre de nombreuses personnalités tout au long de votre livre, Marcus Garvey, Julius Nyerere, Charanta Diop, mais deux d'entre elles sont restées résolument ancrées dans la mémoire collective du panafricanisme, ce sont Kwame Nkrumah et Thomas Sankara. Pour quelles raisons qualifiez-vous Thomas Sankara d'héritier visionnaire de Kwame Nkrumah ?
Alors, héritier visionnaire, parce que je pense qu'il a tiré la leçon des échecs de ses prédécesseurs par rapport à la formation de l'Organisation de l'Unité Africaine en 63. Il a bien compris que la structure qui avait été mise en place par les pères fondateurs de la nation, ou pères de l'indépendance, toujours entre guillemets, des États africains, n'était pas du tout adaptée aux défis des peuples africains et qu'il fallait réformer tout cela assez rapidement pour ne pas laisser la situation empirer. D'autre part, on peut dire qu'il était un visionnaire parce qu'il était porteur de l'espoir social, de l'espoir de transformation sociale que n'ont pas apporté les indépendances. Et c'est en cela qu'il a compris qu'il fallait aller vers ce qu'on appelle la seconde indépendance. Donc d'une part, renommer la Haute-Volta en Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et d'autre part, aider les Burkinabés à sortir du complexe d'infériorité hérité des siècles de domination esclavagiste et colonialiste.
Alors pour bien comprendre, nous allons revenir justement sur l'expérience de la première indépendance et bien sûr sur l'exercice du pouvoir selon Kwame Nkrumah. Vous écrivez « Exercer le pouvoir est aussi difficile que d'y accéder. Quelles sont ses premières difficultés ?»
Alors les premières difficultés, il s'agit en fait d'une indépendance qui a été progressive. Nkrumah prend le pouvoir en 51 en tant que chef du gouvernement, mais l'indépendance n'arrive qu'en 57. Donc pendant 6 ans, il fallait préparer le pays à la transition. Donc il fallait également convaincre le peuple qu'il était nécessaire d'aller vers cette indépendance. C'est un rythme assez soutenu. Il fallait également négocier avec les Britanniques
voilà.
qui détenaient le pouvoir économique.
Et quel est justement le regard d'Nkrumah sur ce partenariat obligé, puisqu'il faut bien apprendre avec les Britanniques?
C'est un regard qui est assez stratégique. Il comprend qu'il est nécessaire de ne pas brusquer les Britanniques pour ne pas qu'il y ait un retour en arrière. Il voit l'expérience d'autres pays à l'époque, notamment en Amérique du Sud, où il y avait des mouvements d'émancipation assez radicaux qui ont été très vite étouffés avant qu'ils ne portent leurs fruits. Donc il va vraiment s'appuyer sur les traditions britanniques, ces traditions de débat parlementaire qui existaient depuis assez longtemps, notamment déjà au niveau de la colonie de la Gold Coast. Il va mettre en relation les chefs traditionnels avec la jeune élite politique et de toutes ces contradictions, il va essayer de trouver un consensus assez difficile, mais qui va néanmoins permettre d'arriver à l'indépendance en mars 57.
Alors justement, ce vent des indépendances balaye le continent et après le Ghana, de nombreux pays africains acquièrent leur souveraineté et décide de s'unir au sein d'une institution dont vous nous avez déjà parlé, l'Organisation de l'Unité Africaine, c'est en 63 à Addis Abeba, en Éthiopie.
The increase in our number in this short space of time is open testimony to the indomitable and irresistible surge of our people for independence.
L'accroissement de nos effectifs dans ce bref espace de temps est un témoignage flagrant de l'indomptable et irrésistible élan de nos peuples vers l'indépendance. Dans la tâche qui s'étend devant nous pour l'unification de notre continent, nous devons prendre ce rythme sous peine de rester en arrière.
La tâche ne peut pas être attaquée dans le tempo of any other age than our own.
Cette tâche ne saurait être abordée dans un rythme qui appartiendrait à une autre époque que la nôtre.
La voix du président Kwame Nkrumah à la tribune de l'OUA. Nkrumah, partisan du fédéralisme, Hamzat Boukari Yabara.
Oui, effectivement, partisan du fédéralisme. En fait, il était convaincu qu'il ne fallait pas mettre en place un organe de coopération, mais réellement un gouvernement d'action à l'échelle continentale. Mais il faut bien comprendre qu'à cette époque, c'était extrêmement difficile, vu que tous les États qui ont accédé aux indépendances, notamment dans la partie francophone, ont mis en place des régimes qui étaient soutenus par Paris. Et il était très difficile pour ces présidents d'Afrique francophone de remettre en cause leur pouvoir.
Et effectivement, une autre vision est défendue par le président sénégalais Léopold Sédar Senghor, c'est celle de l'Afrique des États. Une vision que Fouad-Boigny défend également à l'époque en s'opposant au projet des États-Unis d'Afrique de Nkrumah.
Quand d'aucuns pensent que nous devions imiter les États-Unis d'Amérique, la République soviétique de Russie, bien c'est mal poser le problème, parce que les États-Unis, aussi importants qu'ils soient, ils ne sont qu'une partie de l'Amérique, et de même les Russes ne représentent pas toute l'Europe. Il n'y a donc pas, à notre connaissance, un seul gouvernement continental au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Europe, encore moins au niveau de l'Asie. Et je ne vois pas pourquoi l'on voudrait ériger en Afrique un gouvernement continental à l'état actuel de notre développement économique. Je ne dis pas que c'est une utopie, mais je crois que c'est trop prématuré et que ceux qui veulent le gouvernement continental, qui veulent le plus, doivent pouvoir accepter le moins avec nous pour construire au moins au départ, une union dans la diversité.
Mais pour Nkrumah, la question de l'union économique des Africains doit être un moyen de sortir de la colonisation européenne.
No sporadic action, no pious resolution can resolve our present problems.
Il n'est pas d'acte sporadique, il n'est pas d'intention pieuse qui puisse résoudre nos problèmes actuels.
Nothing will be of avail except the United Act of a United Africa.
Rien ne pourra nous servir en dehors d'une action exécutée par une Afrique unie.
As a continent, our economic demands the end of colonialism. and new colonial domination in Africa.
En tant que continent, notre évolution économique exige la fin de la domination colonialiste et néocolonialiste en Afrique.
But just as we understood that the shaping of our national destinies required of each of us our political independence and bent all our strength to this attainment.
Mais si nous avons compris que la prise en main de nos destins nationaux exigeait que chacun d'entre nous possède son indépendance politique,
so we must recognize that our economic independence resides in our African Union and requires the same concentration upon the political achievement.
Et si nous avons concentré toute notre force pour y parvenir, de même, nous devons reconnaître que notre indépendance économique réside dans notre Union africaine et exige la même concentration sur les réalisations d'ordre politique.
L'Afrique aux Africains dans une union économique et politique, condition indispensable à son émancipation, c'est la doctrine panafricaine défendue par Nkrumah qu'il applique dans son propre pays en lançant une compagnie d'achat du cacao, Hamzat Boukari Yabara.
Effectivement, la question économique était très importante dans cette idée d'unité. Il n'y a pas de développement sans unité. C'est un peu la vision de Kwame Nkrumah. Il explique très clairement que les États africains tels qu'ils sont nés de la décolonisation étaient trop petits, pas suffisamment viables pour se développer. Ça, c'est tout le contraire de Félix Houphouët-Boigny. Et il insiste également sur l'importance de s'ouvrir et de trouver de nouveaux partenaires à l'international en se tournant également vers la diaspora. Donc, il va y avoir cet attrait de la diaspora. Il va y avoir des investisseurs afro-américains qui vont également se tourner vers le Ghana. Donc, tout cet ensemble, je pense, est extrêmement important pour comprendre quelle était la vision de ces États-Unis d'Afrique qui ne se limitaient pas à quelques États, qui allaient au-delà des frontières linguistiques, qui allaient au-delà des frontières culturelles, mais qui nécessitaient en fait un seul gouvernement d'un point de vue politique. On ne peut pas, par exemple, avoir une monnaie commune sur plusieurs États sans avoir un gouvernement politique commun. Et c'est en cela, je pense, qu'il y a eu une contradiction totale avec Houphouët-Boigny qui, lui, est resté dans le système politique et économique et militaire et culturel français.
Alors pour Nkrumah, pour en sortir, il faut effectivement développer des projets africains, panafricains. Il y a cette compagnie d'achat du cacao. Il y a également une politique de grands travaux qui est lancée.
Effectivement, une politique de grands travaux. Il estime que l'Afrique doit réfléchir sur les infrastructures dont elle a besoin. Et ces infrastructures doivent être en mesure de relier le continent, de sortir des rapports nord-sud pour en fait avoir des rapports beaucoup plus sud-sud ou intracontinentaux. Donc ce point de vue va être plus ou moins développé après par les différents organismes économiques régionaux qui apparaîtront dans les années 70 comme la CEDEAO, qui vont penser l'intégration économique d'un point de vue régional, mais néanmoins il s'agit d'intégration économique qui reste encore liée au système capitaliste international qui promeut le commerce, les échanges inégaux vis-à-vis de l'Afrique. Donc il y a cette question du rapport de force que Nkrumah voulait briser, qui n'a pas été en mesure de le faire parce que les autres États africains n'étaient pas prêts à le suivre. Et c'est de cela dont nous payons aujourd'hui les conséquences sur le continent africain.
Et c'est sans doute pour cela que 20 ans plus tard, Thomas Sankara entend bien rompre à son tour avec le néocolonialisme. 20 ans après Nkrumah, il invite les chefs d'État africains à s'unir pour rompre avec ce néocolonialisme. Nous sommes toujours à Addis Abeba, la tribune de l'OUA.
Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il y avait plein de débats. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et l'on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons... Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer.
Sankara, tellement applaudi à l'OUA en 1987, Sankara si peu suivi, Hamzat Boukhari-Yabara.
Oui, c'est ce qui est dramatique, effectivement. On constate qu'il n'y a pas du tout d'orgueil de la part des autres dirigeants africains. Je dirais même qu'il y a de l'hypocrisie de leur part. Et c'est toute la grandeur de Sankara d'avoir démontré à la face de toute la jeunesse africaine et même du monde entier le manque de courage des dirigeants africains. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il a bien souligné la trahison des élites politiques africaines à travers son parcours, à travers ses positions. Et c'est sans doute en cela qu'il est extrêmement populaire, qu'il est resté extrêmement populaire auprès de la jeunesse aujourd'hui.
Et donc cette union africaine sous les feux de l'actualité aujourd'hui avec la crise burkinabé, n'est-il pas temps pour cette union africaine de retravailler sur sa charte de bonne gouvernance et d'y introduire la limitation du nombre de mandats présidentiels ?
Oui, alors bon, il y a effectivement des mécanismes au niveau de l'Union africaine, mais on voit que dans la manière dont le cas du Burkina Faso a été géré, ce qu'il proposait, c'était de mettre en place des sanctions, ce qui paraît assez ridicule par rapport à l'état des lieux. Ils auraient dû s'opposer bien en amont par rapport au désir du président Compaoré de modifier l'article 37, mais je crois que l'Union africaine, de toute manière, est dépassée. Aujourd'hui, c'est aux populations, aux organisations, aux partis politiques, en tout cas ceux qui ont encore un minimum de crédibilité et de courage, de se mettre autour d'une table, de relancer, je pense, la tradition des congrès panafricains et de réfléchir à une constitution des peuples africains qui ferait en sorte que chaque peuple serait garant de la constitution de son voisin. Et ça, c'est, je pense, l'urgence à mettre en place pour les années à venir.
Les présidents panafricains, l'expérience du panafricanisme au pouvoir à travers la présidence Nkrumah et à travers la présidence de Sankara.
Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
La patrie ou la mort, nous vaincrons, cri de ralliement de la révolution cubaine, repris par la révolution sankarienne, que l'on a entendu récemment aussi dans les manifestations qui ont chassé Blaise Compaoré au pouvoir au Burkina Faso. Sankara, donc héritier visionnaire, selon notre invité Hamzat Boukhari-Yabara, héritier visionnaire d'Nkrumah.
African unity now. We who are sitting here today shall tomorrow be the victims and martyrs of new colonialism.
Si nous ne créons pas dès maintenant l'unité africaine, nous qui siégeons ici aujourd'hui, nous serons demain les victimes et les martyrs du néocolonialisme.
For centuries, Africa has been the milch cow of the Western world.
Pendant des siècles, l'Afrique a été la vache à lait du monde occidental.
Was it not our continent that helped the Western world to build up its accumulated wealth?
N'est-ce pas notre continent qui aide à l'Occident à construire ses richesses accumulées?
It is true that we are now throwing off the yoke of colonialism as fast as we can.
Il est vrai qu'en ce moment nous rejetons aussi vite que nous le pouvons le joug du colonialisme.
But our success in this direction is equally matched by an intense effort on the part of the imperialism to continue the exploitation of our resources by creating division among us.
Mais parallèlement à notre succès dans cette direction, l'impérialisme déploie un effort intensif pour continuer l'exploitation de nos ressources en suscitant des dissensions entre nous.
Myriam Makeba, ambassadrice du panafricanisme, chante à la création de l'OUA en mai 63. Myriam Makeba, artiste engagée, dénonce l'apartheid à la tribune de l'ONU en juillet 63. Myriam Makeba, militante de l'unité africaine, défend l'idée d'une langue commune africaine pour communiquer entre Africains. Hamzat Boukhari Yabara.
Oui, effectivement, je crois qu'il est important de rappeler le rôle des intellectuels, des artistes dans ce panafricanisme et de souligner que la musique est un langage universel. Dans le cas de Myriam Makeba, elle parlait un nombre incalculable de langues africaines et non africaines. Et lorsqu'elle défend l'utilisation d'une langue commune, en pensant notamment au Swahili, elle est convaincue que cette langue-là, cette politique linguistique devrait être la base de l'éducation continentale africaine. Il s'agit de trouver une langue dans laquelle les Africains de l'Est, du Centre, du Nord, du Sud, de l'Ouest pourront communiquer sans passer par des interprètes, sans passer par les langues héritées du colonialisme. Et donc c'est aussi l'idée de se désaliéner, ou en tout cas de reconstruire une autre culture de langue, une autre communauté de langue au niveau du continent africain. Et ce projet d'une langue continentale, c'est aussi un projet qui est éminemment politique et économique.
Et éminemment utopique, mais en tout cas qu'elle mérite de faire prendre conscience que la langue commune, encore une fois, c'est celle du colonisateur.
Effectivement, c'est celle du colonisateur, et comme il y en a plusieurs, ce sont des langues qui au final divisent. Et c'est toute la difficulté du panafricanisme de réconcilier tout ce qui a pu être divisé, balkanisé à tout point de vue.
Être panafricain, c'est aussi penser la sécurité du continent dans une unité interétatique. Une idée reprise 20 ans plus tard par le militaire Thomas Sankara à la tribune de l'OUA.
Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Je suis militaire et je porte une arme. Mais monsieur le Président, je voudrais que nous nous désarmions. Parce que moi, je porte l'unique arme que je possède et d'autres ont camouflé les armes qu'ils ont. Alors, chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire la paix chez nous.
Difficile de résister au verbe de Thomas Sankara. Sankara, certes visionnaire, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, mais un Sankara seul, comme Nkrumah.
Effectivement, seul, isolé. Je crois que dans l'extrait qu'on a écouté, il y a cette question de la sécurité qui est également liée à la problématique des frontières, les conflits interafricains qui sont souvent liés à des causes extra-africaines, notamment la répartition ou la prédation des richesses et des ressources. Et donc cette idée également d'une armée continentale, on la retrouve également dans les propos de Nkrumah. Il explique très clairement qu'il est important que l'Afrique se dote d'une armée pour la défendre par rapport aux agressions extérieures, et qu'à l'échelle continentale, il est possible d'avoir un système sécuritaire qui soit policier avec des brigades qui interviendraient. Donc c'est toute une architecture des relations internationales africaines qui a été pensée par ces figures-là et qui sont aujourd'hui un peu retombées dans l'anonymat alors que leurs visions sont toujours d'actualité.
Finalement, Hamzat Boukhari Yabara, le panafricanisme est-il mort ou encore à ses débuts, lorsqu'on voit par exemple les mouvements citoyens au Sénégal, le mouvement Yonama ou encore au Burkina actuellement avec le ballet citoyen?
Le panafricanisme, on ne peut pas dire qu'il est mort. Disons qu'il y a deux types de panafricanisme. Il y a un panafricanisme de type Union africaine qui est mort depuis 1963, qui n'a d'ailleurs jamais existé. Et il y a de l'autre côté un panafricanisme populaire, porté par des militants, par des organisations de la société civile, par des intellectuels, des travailleurs, des leaders syndicaux, qui essayent de faire émerger une autre Afrique. Maintenant, c'est la question du rapport de force qui se pose, donc ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. Si d'autres peuples ailleurs peuvent s'en inspirer et y trouver des moyens de reconnecter les choses de manière à faire émerger une véritable unité, une véritable solidarité entre les peuples, je pense que le panafricanisme l'islamisme devrait nous apporter quelques très bonnes surprises dans les années à venir.
Merci Hamzat Boukhari Yabara. Je rappelle que votre livre Africa Unite est aux éditions La Découverte. Nkrumah, Sankara, le panafricanisme au pouvoir, c'est une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani avec les archives de l'INA et de RFI et de nombreux extraits du film de Christophe Cuplin, Capitaine Thomas Sankara. N'oubliez pas de vous exprimer sur Facebook. Écrivez-nous marche.monde@rfi.fr. Podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Faisons donc attention à toutes ces oppressions. Évitons l'ascension de toutes les exactions. Faut que nous nous rassemblions, car c'est l'unique solution. Attention, attention à toutes ces divisions. Et surtout évitons d'être l'air mouton. Quand nous serons unis,